I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Un petit bruit buccal, subtilement dosé, le chip est en danger.
Rendez-nous les chips.
L'Europe entière s'enfonce dans la crise et vous peignez que le sérum hydroalcoolique vous assèche la peau des mains. Détendez-vous, vous écoutez le chip. Bonjour, je suis Kevin Donna et aujourd'hui je suis accompagné de François Aulac.
Salut Kevin.
Mélanie Wanga n'est pas là, elle est confinée, non en fait elle est en week-end, on l'embrasse. Mais à la place, on a une invitée de marque, Lose and the Yakuza, Without the Yakuza.
Yes.
Ton album devrait sortir cet été.
Yes.
Et tu vas nous parler de ton travail et de ton parcours en long, en large, en travers.
On a plein de trucs, on a plein de questions.
On veut des réponses. Mais avant ça, on va commencer par notre rubrique phare, le trash ou iconique.
Alors, tout le monde a vu le discours d'Aïssa Maïga au César, tu l'as vu, Alous?
Oui.
Donc c'était un moment assez fort, voilà. Aïssa qui est montée sur scène avec cette magnifique tenue jaune et qui a déploré le manque de diversité au ouais. cinéma et puis qui a attrapé en passant la veste de Vincent Cassel sur le ouais. sur la négrophilie, c'était assez fort comme moment. Moi j'ai des pensées, j'ai des avis contradictoires. Oui. J'ai remarqué un truc, c'est qu'il y a eu beaucoup de débats. Bah d'abord ça a ouvert grand ouvert le débat justement sur la diversité au cinéma et dans la en France, il y en a beaucoup besoin. Mais il y a aussi eu des débats un peu en interne, on va dire,
chez nous, entre nous.
Voilà, donc, au sein même de la négritude, on va dire, sur la forme du discours. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui disaient bon, on est tous d'accord sur le fond, on est tous d'accord sur le fait que Aïssa Maïga a raison et que ce qu'elle a fait c'était super courageux.
Ouais.
Et en même temps, il y a eu des divergences en mode bon, est-ce que sur la forme elle aurait dû le faire comme ça? Est-ce qu'elle s'est bien exprimée? Est-ce qu'elle s'est bien...
Ouais, moi je pense que c'est aussi c'est une forme qui fonctionne avec des gens, mais pas la majorité malheureusement.
Ouais, voilà, enfin, elle a fait un choix. Elle a fait
elle a fait le choix de ce ton-là, quoi.
Voilà, elle a fait le choix de ce ton-là, souriant, enfin faussement souriant. Elle rit jaune finalement, jaune. Elle rit jaune. Elle fait ce ton de cette espèce de fausse connivence avec son public pour mieux leur asséner des vérités. C'est un choix. Personnellement, j'étais pas trop en ligne avec ce choix, tu vois. Est-ce que je me rends compte quand on a des débats en interne, on va dire, j'ai eu des débats avec Kevin. J'ai eu des débats avec Mélanie, j'ai eu des débats avec d'autres amis noirs. C'est que bon, on se range tous à cette espèce de loi tacite, tu vois, qui existe, de faire le front commun. Yes. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que bon, ben voilà, ok, on est peut-être pas tous d'accord sur les moyens d'agir, mais déjà c'est super courageux ce qu'elle a fait, faut encore le rappeler. Elle a raison et surtout, ce qui compte c'est la fin, quoi. C'est que ce qu'elle a dit, on a pas 10 000 occasions, on va dire, de s'exprimer et de faire des statements, des affirmations aussi fortes dans l'espace médiatique.
Exactement.
Et donc il faut les saisir. Et je trouve que c'est un problème, en fait, dans les questions de représentation.
Yes.
C'est-à-dire que quand tu fais partie d'une communauté qui n'est pas forcément représentée, dont la parole n'est pas forcément très présente dans la culture mainstream, et dont la parole, lorsqu'elle est présente dans la culture mainstream, c'est-à-dire rarement, n'est pas très respectée.
Ouais.
On a ce truc où, en gros, on a interdiction de s'auto-critiquer entre nous et justement de faire ce front commun face à...
L'adversité, entre guillemets.
Voilà, l'adversité, la majorité, on va dire.
Ouais.
Et moi, ça me saoule. Kevin.
Ouais, moi, je suis à peu près d'accord avec tout ce que tu dis, avec comme bémol le fait que si tu es celui du groupe minoritaire qui vient dire « Oui, mais c'était pas exactement parfait, je suis pas d'accord et je te donne pas le droit de parler en notre nom », l'adversité, justement, va dire « Ben voilà, c'est exactement...
Ouais. »
L'exemple que je donne, c'est l'exemple qui me marque aussi, c'était pour les Césars, mais c'était pas Aïssa Maïga, mais c'était la tribune de Virginie Despentes. Il y a Natacha Polony, donc journaliste, éditorialiste à Marianne, qui a dit que la tribune de Despentes était trop violente, trop agressive, etc. Et donc, du coup, tous les médias très, 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 très à droite ont félicité Natacha Polony comme la femme qui critique la femme qui a pris position sur une question. Enfin voilà, c'est, et je disais,
tu te retrouves instrumentalisé.
Ouais, et en fait, sur la question noire, tu peux te retrouver exactement à la même chose, être invité chez Valeurs Actuelles pour dire, alors vous n'êtes pas d'accord avec Aïssa Maïga, dites-nous en. Tu vois,
c'est... Ouais. Et moi, ça me saoule parce qu'en fait, ça crée une sorte d'impossibilité d'avoir une autocritique et puis une parole un peu nuancée. Moi, j'envie un peu les blancs qui, tu vois, ils ont une gauche, ils ont une droite, ils ont une extrême gauche, ils ont même le droit d'avoir une extrême droite, ils ont même le droit d'avoir des extrêmes, tu vois, qui disent des trucs un peu hardcore et problématiques et un peu antidémocratiques. Tu vois, nous, on n'a pas ce luxe, tu vois, il n'y a pas d'extrême droite noire, enfin.
Non, il n'y en a pas.
Et du coup, tu vois, Marianne qui se clash avec le Figaro, qui soutient Valeurs Actuelles, etc. Nous, on n'a pas ça, tu vois. Mmh. Et je trouve que c'est un problème. Et je rêve du jour, en fait, où on pourra, tu vois, où on aura la liberté de s'auto-critiquer, entre guillemets.
Après, on devrait l'avoir, hein. Moi, si je peux me permettre, mon opinion, même si ce n'est que mon opinion, comme je le dis souvent, par rapport à ce discours, moi, j'étais pas du tout d'accord avec la façon dont c'est... Genre, à aucun moment, je vais me dire que ce ton-là correspond à un ton... En fait, quand tu t'exprimes à beaucoup de gens, qu'ils soient blancs, noirs, oranges, verts, whatever they are, à partir du moment où tu t'exprimes à beaucoup de gens, dans un certain contexte, là, on n'est pas dans le contexte de l'humour. C'est pas des gens qui ont payé pour être, par exemple, un spectacle d'humour. Donc, il y a toute une partie de ce discours qui est un peu, comme tu dis, un peu rire jaune. Et tu vois que les gens qui reçoivent ce message sont stupéfaits. Ils sont pas, c'est pas le message qui les choque. C'est la façon dont le message est donné. Peut-être, et finalement, genre, quand je regarde avec du recul, je me dis, bah, tant mieux, parce que du coup, on en parle aujourd'hui et je pense qu'on n'est pas les seuls, tu vois. C'est qu'en fait, cette façon d'amener ce ton-là, de cette façon d'avoir amené les choses, fait que tout le monde s'est questionné. Mais malheureusement, on n'est pas du tout en train de parler de son fond. Tu vois, là, on n'est pas du tout en train de parler de ce qu'elle a dit. Et je pense que c'est ce que beaucoup de gens ne font pas.
C'est peut-être ma faute aussi, tu vois. C'est peut-être moi qui ramène ça.
Je lisais les commentaires et tout. Et je suis super d'accord avec le fond de ce qu'elle dit. La façon dont elle le fait, c'est pas que je suis pas d'accord. C'est juste que quand on communique, on doit communiquer aux gens qui sont en face de nous. Par exemple, si je parle à un enfant, je vais utiliser un certain vocabulaire. Si je parle à mes potes de la street, je vais parler à un certain vocabulaire. Je parle à un prof de français, je parle à un certain vocabulaire. Je parle à mes parents, j'utilise un certain vocabulaire. Je vais pas parler à mes parents comme je parlerai à un enfant de 4 ans.
Tu fais du code switching.
Exactement. Ça veut pas dire que je change qui je suis, tu vois, mais c'est juste, tu t'adaptes à ton public.
Bien sûr.
Et je pense que le langage qu'elle a pris, bon, c'est pour vulgariser et abréger, hein, le langage qu'elle a pris n'était pas nécessairement adapté à son audience, tu vois. Parce que visiblement, ils n'ont pas compris. Et je pense qu'à la fin d'un discours ou à la fin d'une prise de parole, le but, c'est qu'on comprenne ce que tu as voulu dire. Et là, on s'est trop attardé sur la forme. C'est comme quand quelqu'un est en colère. Tout le monde va dire, ouais, mais en même temps, c'est un ouf, il s'est énervé. Alors que peut-être le mec, il disait les plus grandes vérités de l'humanité, mais c'est parce que l'humain est comme ça, tu vois. On va s'attarder sur la forme, là où le fond est peut-être. Et ça détourne tout la suite, ouais, tu vois.
Ouais.
Les gens, quand tu vois des batailles entre potes, celui qui s'est énervé, ce sera toujours celui qui a tort. Alors que peut-être pas, tu vois, peut-être que ça n'a rien à voir, tu vois.
Clairement.
Mais on préfère se dire, ah, mais non, regarde, il a pété un câble, ça veut dire qu'il a des trucs à se reprocher alors qu'il n'y a rien à voir, tu vois. Parce que l'être humain est comme ça, on va retenir à la forme tout le temps, surtout quand ça nous arrange.
Ouais, j'en ai parlé avec une pote et elle m'a, parce que j'étais un peu froissé par ce truc là parce que je me suis rendu compte à ce moment là qu'on avait un problème, et elle m'a dit très justement que, en fait, elle me dit, François, voilà, on a pas beaucoup de jetons, tu vois, d'expression au public, et c'est con d'utiliser tes jetons, en fait, pour pinailler, en gros, sur la forme du discours d'Aïssa Maïga, alors que, en fait, 80% de ce qu'elle a fait, c'est le fond. Faut Exactement. Pas oublier qu'elle est sortie ensuite de la salle en même temps qu'Adèle Haenel. Faut pas oublier qu'elle était avec les manifestantes après la cérémonie. Donc faut pas oublier tout ça. Et donc voilà.
Exactement.
Je ferme cette parenthèse et je rétablis le front commun.
Alors moi, mon iconique cette quinzaine, c'est l'interview de Cazé pour le média Yard.
L'imaginaire colonial français, il est là, il est réel. Le traitement colonial des Noirs et des Arabes en France, il est réel. On raconte pas de conneries. Même là où on vit, on appelle ça des territoires. T'imagines, pourtant c'est la France. Ce serait des territoires perdus, des territoires à conquérir. Il y a même de la conquête. Tu vois bien que c'est un délire. Avec, c'est complètement délirant. Vraiment, l'élite pense de cette manière, tu vois.
Alors, Cazé, c'est une rappeuse du 93 qui s'est prêtée dans cette interview à l'exercice du hier encore, en re-répondant aux mêmes questions qu'en 2017, mais du coup, 3 ans plus tard. Cazé, donc, je disais, c'est une rappeuse du 93 d'origine martiniquaise. Elle répète souvent que c'est une anomalie du 93 avec une gueule caribéenne. C'est une artiste engagée qui a pas peur de taper du poing sur la table. Moi, je l'ai connue il y a environ à peu près une décennie avec un morceau qui s'appelait Chez moi, où elle parlait de son île natale,
ouais.
Mon île natale, du coup, la Martinique. Et elle se démarque par son côté sans concession. Elle arrondit pas les angles et elle revient un peu sur le devant de la scène en ce moment parce qu'il y a un nouveau projet sous le nom de House Gang qui s'appelle, l'album s'appelle Gangrène. C'est assez radical. Et bref, dans cette interview, l'extrait que je vous ai passé, elle parle justement du racisme à la française, des questions de goût. Moi, ce que j'ai trouvé très, très, très cool, c'est lorsque elle parle des parvenus. En France, on a un peu tendance à mépriser les nouveaux riches, les rappeurs, les footballeurs, à toujours leur reprocher des trucs. Elle disait, on parle toujours des jantes de Karim Benzema, mais rarement du château de François Fillon, qui a mauvais goût, qui a pas bon goût, etc. Et donc voilà, j'ai trouvé que c'était assez rare d'avoir des personnalités noires en France qui justement parlent de façon aussi frontale.
C'est l'une des seules.
C'est l'une des seules. François, tu l'as rencontré, tu ouais. l'as interviewé récemment.
Oui, j'étais présent lors d'une émission de rap qui s'appelle le VRF Show, Big Up à eux. Et du coup, on a reçu Kazé et on a discuté un peu avec elle. J'ai pas eu le temps d'aborder la question coloniale. Je vais vous le dire très clairement. Tu connais Kazé, Luz?
Oui.
T'as, ouais. déjà, t'as déjà écouté?
Oui, c'est un de mes photographes qui m'avait fait écouter.
C'est assez fort, c'est ouais. assez, c'est assez puissant. Ce qui m'a surtout choqué, c'est que elle a ce truc. J'avais écouté son passage dans La Poudre, le podcast de Lorraine Bastide, où Lorraine lui pose des questions. On va dire, elle reste vraiment dans sa posture, on va dire. De bourgeoise blanche, je le dis pas très fort. Et du coup, Kazé la remet beaucoup à sa place, en mode, bah, écoute, moi je fais de la musique pour une certaine catégorie de personnes, et tu ne rentres pas dans cette catégorie, donc en fait ton ressenti m'importe peu, etc. Et donc, elle, tu vois, elle a ce côté vraiment sans concession, et très, sa musique est très sérieuse, très, presque, ouais. presque austère, tu vois. Ouais. Et juste ce qui m'a choqué, c'est qu'en face, quand tu la rencontres, elle est ultra-tigeant. Elle a beaucoup de second degré. Je lui ai un peu volé dans les plumes. Je lui ai dit, mais Kazé, en fait, t'es une puriste. T'es une puriste du rap. On a l'impression que tu rigoles deux fois par an. T'es très sérieuse, etc. Et c'est assez dingue à quel point, en fait, on l'enferme dans cette image d'activiste. Mm-hmm. Alors qu'en fait, elle est beaucoup, beaucoup plus que ça, quoi. Donc vraiment, bête de découverte.
Luz, tout à l'heure, tu parlais du fond et de la forme. Lorsque quelqu'un s'énerve, justement, Kazé, donc elle revoit son interview de 2017 en 2020. Elle-même, elle dit, ouais, j'étais un peu vénère à ce moment-là. Donc elle le reconnaît et justement, elle parle de ça. Elle dit, on n'a pas toujours la possibilité d'être gentil et d'être face aux dominants et de parler avec le ton qui leur plairait, ouais, qui leur conviendrait, le problème, ouais. etc. Et donc elle dit, il faut accepter aussi la rage, la violence de ceux qui souffrent.
Tu ne peux pas. Tu ne peux pas détruire la maison du maître avec les outils du maître. Audrey Lorde, je crois.
Et du coup, moi, là, l'album, le nouvel album Gangrène que j'ai commencé à écouter hier soir, moi, ce qui me marque, c'est que c'est du rap et du rock. Et que le morceau, donc elle a lancé un single il y a quelques semaines, il s'appelle Chuck Berry, et elle se réapproprie en fait cette musique qu'est le rock, qui aujourd'hui est un peu estampillée musique de blanc, et tout ce qui en découle, le punk, etc. Et quand moi, parfois je joue sur ce truc musique de blanc, musique de noir, je parle rarement des gens qui la font, des gens qui sont à l'origine de la musique, mais plutôt des gens qui la reçoivent, et de comment on va marketer les différents types de musique en France, mais pas seulement en France.
On avait le même débat avec le rap de Yankee un peu.
Ouais, ouais, exactement, mais En vrai, en France, moi, juste pour une petite anecdote personnelle, j'ai un ami allemand qui a un groupe de punk et je suis allé plusieurs fois le voir à l'époque. Même si c'est pas une musique que j'écoute, c'est pas une musique que je déteste non plus, c'est pas ce que j'écoute le plus. À chaque fois que j'y allais, il y avait le même noir qui les suivait partout. Et effectivement, le mec ultra minoritaire, est-ce qu'il a sa place dans ce type musical? Elle, Kazé, ce qu'elle répond, c'est que un mec comme Chuck Berry, il a à l'origine du rock à travers le blues, etc. Et que pour plein de raisons de marketing, de whitewashing, etc., ce genre musical a été complètement accaparé par les blancs. Elle se réapproprie dans l'album House Gang, l'album Gangrène, qui a des sonorités, à mon avis, qui vont rebuter plus d'un, honnêtement.
Ouais, j'ai écouté l'album et c'est très très punk. Ouais.
Mais lyricalement, c'est très intéressant. Elle a plein de trucs à dire. Donc un gros shout out à Kazé et donnez-lui de la force parce que c'est pas forcément ce qui fait le plus de stream. Mais aussi bien en interview que ce qu'elle dit dans ses albums, il y a des trucs intéressants à aller diguer. Après, ça s'écoutera peut-être pas cet été à la plage, mais c'est cool. Mais c'est cool.
Iconique.
Iconique.
Mousse, parlons de toi un petit peu.
Ah, let's go.
On est très content de te recevoir dans le chip.
Merci, merci beaucoup.
Je pense qu'on va parler de pop culture, on va parler de musique noire, d'identité,
yes.
et on fait plein d'anglicismes nous aussi. Donc je pense qu'on est fait pour s'entendre.
Yes sir.
J'ai beaucoup aimé ton morceau Tout est gore.
Merci beaucoup.
J'ai beaucoup aimé le côté un peu trap.
Merci.
Sur les côtés au milieu. Mais t'es pas encore très connu pour l'instant, en tout cas yes. Chez nous en France. Ça fait longtemps que tu fais de la musique, t'es ce qu'on peut appeler une artiste émergente. Est-ce que tu peux me parler un petit peu, juste comme ça, en quelques mots, de ton parcours d'abord, musical.
Alors, donc j'ai commencé à écrire quand j'avais 7 ans, 6-7 ans, un truc comme ça, 8 ans. En fait, dès que j'ai appris à écrire à l'école, j'ai commencé à écrire. Et j'ai commencé à chanter au même moment, peut-être même avant. Et j'ai continué comme ça, et puis j'écrivais énormément. J'écrivais genre 10 textes par semaine, genre énormément de textes. Et puis j'ai eu mon bac, et là j'ai commencé ma carrière, je me suis dit je vais commencer. J'ai commencé, j'ai enregistré mes premiers tracks, et puis j'ai sorti 7 EP en 3 ans. Et puis il y a 2 ans, j'ai commencé mon album en mai 2017, donc en fait maintenant c'était à 3 ans presque. Et j'ai commencé à l'écrire, et puis j'ai signé 6 mois plus tard en maison de disque avec mon publisher, mon éditeur. Et puis de là, j'ai rencontré mon label et me voici.
D'accord. Tu fais une musique, t'es une bonne lyriciste, une musique assez lyricale quand même, le texte tient une place assez importante.
Ouais.
Tu fais une musique qui, on va dire que c'est de la pop, mais matinée de R&B et de trap, c'est assez juste comme description?
Ça dépend qui l'a décrit. En français, elle la décrirait comme ça, oui.
D'accord. En fait, on va pas pouvoir passer d'extrait de ta musique ici pour des questions évidentes de droit. Donc, quelqu'un qui n'a jamais écouté ta musique, comment est-ce que tu la décrirais?
La poursuite infinie vers la vérité.
D'accord.
C'est comme ça que je décrirais ma musique. Parce qu'en fait, elle prend tellement de forme.
Les
gens n'ont écouté que deux titres.
À la FNAC, la poursuite de la vérité, ça se range dans quelle catégorie à la FNAC?
Ça se rangera dans la catégorie qui s'appelle la poursuite de la vérité.
Ce sera au rayon développement personnel avec les bouquins.
Non, mais c'est vrai. Je pense que c'est marrant parce qu'on a fait tellement de réunions, on en a tellement parlé au sein du label du fait que je n'appartenais à aucune case. Parce que vous avez entendu 2 tracks.
Oui.
Dans mon album, il y en a 10. Et ouais, donc, 2 tracks sur 10, ça ne représente pas du tout la couleur de mon album. Il y a tellement de choses.
On a écouté un peu aussi ce que t'as posté sur Instagram, les actes, là.
Ouais. Mais ça, c'est encore autre chose. Les actes, par exemple, j'ai commencé à jouer du piano en janvier. J'ai composé toutes ces chansons en mars. Et puis, je les ai produites avec Chrissy l'été. Et c'était vraiment un truc à part.
Belge.
Ouais. C'était vraiment un truc bien bien à part, tu vois. Et du coup, on parlait beaucoup du fait que voilà, on voulait dans aucune case, et on se rend compte après, genre vraiment 6 mois plus tard, à quel point c'est problématique en France, tu vois. Tu essaies de pitcher, par exemple, imaginons mon son sur une radio pop, ils vont te dire maintenant c'est la musique urbaine, parce que je déteste ce terme.
Tu vas
sur la musique urbaine, sur mode ouais, mais non, mais c'est un pump, I don't understand. Et puis tu vas sur une radio rap, ils vont te dire mais c'est pas du rap du tout ce truc. Et t'es là, oh. Et tu te rends compte, genre, on a une énorme discussion avec ça, avec Damso, il y a genre la semaine passée, parce que je lui expliquais cette problématique-là. Et il me disait, ils vont pas changer pour toi, tu vois. Genre, comme tu dis avec la FNAC, tu vois, il va falloir que je mette mon CD quelque part.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Et je me suis jamais, je me suis jamais résilié, je me suis jamais dit genre, ah bon, vu que c'est comme ça le game, bah alors c'est tout, je vais faire ça. Jamais. Moi, je vais forcer pour qu'à la FNAC, il y ait l'option vérité dans les bacs.
Tu sais ce que ça me rappelle? Ça me rappelle, alors c'est un peu à l'ancienne et c'est un peu américain, je suis un très grand fan de Kelis, son deuxième album qui s'appelle...
Celui d'avant Tasty,
ouais. Le nom m'échappe.
Qui est très produit par les Neptunes, du coup.
Entièrement produit par les Neptunes, comme tous ses premiers albums. Ouais. Et en gros, c'est un album ultra futuriste avec des morceaux de rock, des morceaux de punk, des morceaux psyché, des morceaux plus R&B, des morceaux rap. Enfin, c'était vraiment ultra, ultra avancé pour l'époque. C'était un peu nerd, mais version féminin. Et en fait, l'album, il a fait quasiment un total flop aux États-Unis parce qu'en fait, les grandes enseignes de vente, comme pas GameStop, mais... j'ai oublié comment ça s'appelle.
Walmart, c'est ça.
Walmart, en fait, ne savait pas dans quel rayon le placer. Et du coup, il a été shelved, il a été mis de côté, il a quasiment pas été vendu et il est quasiment introuvable aux États-Unis. Il est plus facilement trouvable en Europe qu'aux États-Unis.
Allez. C'était il y a 20 ans aussi.
Hein. C'était il y a 20
c'était
ans.
C'était pas Internet, c'était pas Internet, pré-streaming.
Bien sûr. Mmh. Mais on va reparler de ces histoires de cases parce que c'est un truc qui nous intéresse forcément. En tant que femme noire dans l'industrie, tu vois, on a envie d'en parler. Mmh. Mais avant, j'ai envie de te poser une question un peu plus concrète aussi. L'un des premiers trucs qui me marque quand je regarde tes clips et que j'écoute ta musique, c'est l'esthétique.
Yes.
Clairement, tu fais du mannequinat, c'est ça?
Ouais.
Décris-nous ton outfit du jour, là.
Waouh, mon outfit du jour. Alors, je porte du merch de Columbia Records.
D'accord.
C'est incroyable.
Elle est corpo.
Après, j'ai quoi? J'ai un col roulé Aaron Preston.
D'accord.
Ça s'appelle comme ça. Hein. Puis un petit jeans et puis des grosses bottes de camionneur.
La go est stylée. La go est stylée, il faut le dire.
Et un bob.
Non mais j'aime beaucoup l'esthétique, l'esthétique de tes clips. C'est très léché, c'est très pensé en amont, très produit.
Ouais.
Et il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est que c'est totalement afro. Enfin,
ouais.
C'est-à-dire qu'il y a des.
C'est un choix qu'on a pris.
Ouais, c'est-à-dire.
C'est la réelle d'ailleurs qui est totalement blanche comme neige, qui a imposé ce.
C'est pas un choix à toi.
Ben en fait, dis-toi que c'était mon choix. Genre j'ai pensé à ça, mais après je suis tellement pour la diversité que je me disais. Ouais, non, ça va être chelou. Moi, je veux représenter la diversité parce que c'est ça qui me manque, c'est la diversité. Je veux pas que des noirs, mais je veux la diversité dans le monde.
Il y a que des noirs dans tout le monde.
Et puis finalement, elle m'a répondu gentiment. Elle m'a dit, ouais, mais le problème, c'est qu'il n'y a aucun noir. On n'a pas de bonne représentation du noir. Genre, dans un clip, systématiquement en France, quand tu vas voir un clip avec un Renoir, c'est jamais une Renoir, c'est toujours un Renoir, c'est en bas de sa cité. C'est toujours la même représentation. T'es en bas de ton building, tu rappes avec tes potes et c'est sympa et tout, tu vois. Mais ça, c'est exactement la même image. Tu ne vois jamais un noir faire autre chose. Tu vois, un homme noir surtout, tu vois. Les hommes noirs sont un peu aussi bloqués dans cette espèce d'image qui imposée par la société et qui s'impose tout seul parce qu'ils se disent ouais bon j'ai pas commencé à porter ça et ça. Je veux dire même les stylistes ils ont du mal à habiller les mecs des cités parce que les mecs des cités sont en mode non il me faut mon complet, mon ensemble Adidas parce que sinon je vais passer pour toi alors que c'est en mode what the hell. Quand tu vois Migos par exemple qui c'est des mecs tout autant de la street, ils ont passé un câble juste au niveau du stylisme.
Ouais.
Ils sont là avec des pattes def, ils font le. En fait ils ont une liberté qu'il y a pas du tout en France tu vois dans
c'est
le, surtout dans le rap où les gens tu vois ils sont dans leur carré quoi. Et puis donc elle m'a dit voilà on en a réfléchi vraiment c'était une grosse discussion et on n'arrêtait pas de réfléchir et tout ça et moi je me disais ouais comment on est en fait on est juste sous-représenté. Je voulais montrer genre un black excellence entre guillemets de ouf tu vois, se dire la meuf elle est fraîche, talking about myself, ouais. Les mecs sont frais, tout le monde est frais, tout le monde danse bien. Je voulais que vraiment que t'es que tu, même si tu n'aimes pas les noirs, tu es obligé de te dire ça, c'est frais. Tu vois. On cachette chez toi, tu vois,
quand
si
on,
tu regardes.
Quand on regarde les petites vidéos que tu as postées, donc les actes que tu as postées sur Instagram, donc tu es accompagné de plusieurs de tes amis, Crazy, donc de La Fuentes, rappeur-producteur belge qu'on aime beaucoup, Ize aussi, qui est ta bonne pote.
Yes.
Et quand je regarde les visuels, c'est très coloré. Et puis, il y a des afros, il y a des nattes, il y a des tresses, il y a des durags.
Ouais.
C'est important pour toi.
Ah ouais, de ouf, c'est important parce que. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on est, tu vois. Je veux dire, moi, avant que ce soit la mode, on était déjà comme ça, tu vois. Je veux dire, aujourd'hui, depuis que l'appropriation culturelle fait fureur, on paraît se joindre à un mouvement de mode, alors qu'à la base, non, tu vois. Je veux dire, les cornrows, que ce soit les nattes, les bantu knots, ce que nos parents nous faisaient quand on était petits, parce qu'ils avaient le seum contre nos cheveux, parce qu'impossible à traiter, et qu'on restait pas assis plus de 5 minutes, quand ils nous tressaient et tout, eh ben c'est juste notre culture, quoi. Et qui est en fait la culture, en plus c'est marrant, parce que moi j'ai grandi en Afrique, notre culture, la culture en tout cas du Rwanda, où j'ai fait mon adolescence, c'était hyper fort le hip-hop américain, donc t'avais du coup toute cette culture de durag que les hommes mettaient vraiment dans les clips et tout ça. Et puis à la maison, tu voyais ta mère avec un durag, mais ça va être toute une autre. C'était pas pour le style, c'était vraiment pour, tu vois, aplatir ses cheveux, c'était utilitaire, tu vois. Et pour plein de trucs comme ça, on était dans cette espèce de gros mélange parce que la culture, le hip-hop américain a énormément influencé la culture en Afrique, tu vois. Ce qu'on ne parle pas beaucoup de ça, hein, mais les afro-américains ont influencé aussi énormément.
Ça va dans les deux sens.
Ouais, ça va dans les deux sens aussi, tu vois. Et surtout dans la dégaine, comment les gens se tiennent, parce qu'ils ont un peu défini le hip-hop auquel beaucoup de gens se sont identifiés au fur et à mesure les années qui ont suivi. Mais c'est clair que je porte beaucoup d'attention à l'esthétique. Parce que aussi, comme tu as dit tout à l'heure, on n'a pas... We don't have a lot of shots. Tu vois ce que je veux dire?
Oui,
je ne peux pas faire 4 clips éclatés et puis venir avec un clip frais. Parce qu'en fait, je vais passer pour quelqu'un... On ne va pas me donner le même forgiveness qu'on va donner à un blanc. Tu vois.
Ouais.
On va me donner la même évolution. Tu vois. Moi, je sais que... je l'ai dit dans plein d'interviews et chaque fois les gens ils twistent mes mots. Enfin, tu vois, c'est dès que tu dis blanc ou noir, les gens ils ont un peu flippé un peu. Surtout en France, en Belgique c'est pas comme ça, tu vois. En Belgique, le débat culturel il est déjà, il est vraiment ouvert, tu vois. Genre, en fait, à Bruxelles, pas en Belgique, hein, à Bruxelles, il y a tellement d'Arabes, tellement de Noirs, que vas-y, c'est, tu vois, les gens, ils ont l'habitude, tu vois. Mais ici, c'est vrai que c'est un peu plus touchy.
Est-ce que vous avez cette même culture au niveau de la musique et du mainstream, tu vois? Nous, en France, on a...
Il n'y a pas d'industrie en Belgique, donc ce sera pas la même. Y a pas d'industrie.
Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'en France, on a une culture de l'invisibilisation. Par exemple, cette année, aux Victoires de la Musique, on a supprimé la catégorie musique urbaine parce qu'on a estimé qu'il y avait encore trop de non-blancs dans la musique. Donc on s'est dit, vas-y, on va nettoyer. Et on a cette culture.
C'est
ouais,
vrai,
de...
ça, il n'y a pas eu cette année.
Il n'y en a pas eu.
Pourquoi ? C'est quoi la raison ?
Je ne sais pas.
Parce qu'on pouvait faire gagner l'homme pâle ailleurs. Donc, du coup, c'était pas la peine de faire une catégorie musique urbaine, je pense. Je sais pas.
Ouais. Non, je sais pas. Mais on a ce truc, si tu veux, où la musique noire, je veux dire hors rap. Hein. La musique noire hors rap, ça va être les tubes de l'été venant de la world music. Ça va être Magic System ou à l'ancienne Kumba Gaolo.
Ouais.
Et sinon, on a cette magnifique invention française qui s'appelle le zouk. Donc on a des gens comme Francky Vincent, et puis on a plus récemment on a Maître Gims et Nakamura, tu vois.
Ouais.
Mais ce qui est marrant, c'est que du coup on a grandi avec des figures noires, tu sais, qui sont à la fois des modèles parce qu'ils ont quand même percé,
ouais,
et en même temps c'est un peu des figures repoussoirs, tu vois. Francky Vincent,
Tu peux pas résumer le zouk à Francky Vincent.
Non, je te parle de la représentation mainstream.
Ouais, ouais.
Tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'on a grandi en France avec des figures noires où bon, ben ouais, ok, Francky Vincent, il existe, mais en fait, on n'est pas très content de l'avoir parce qu'il représente une caricature.
C'est le problème de ce qui a été mis en lumière. Exactement. En tout cas, comment...
Toi, en Belgique, est-ce que t'as grandi avec des...
En Belgique, il n'y a personne.
Il n'y a pas de figure noire de la musique belge?
Non, bien sûr que non. Non, je veux dire, à part Stromae, parce qu'ils aiment bien dire qu'il est noir, mais il n'est pas du tout noir. Stromae, il est métis, tu vois.
Balogi.
Mais c'est pas mainstream.
Non, c'est pas du tout mainstream.
Tu vois, ouais. Si je parle vraiment de mainstream, après, il y a plein d'artistes noirs en Belgique, tu vois. Mais c'est pas du tout mainstream, tu vois.
Et dans ton même quand t'étais plus jeune et tout, il n'y a pas ça?
Non, pas du tout. En plus, j'ai pas vraiment grandi en écoutant la musique locale belge, parce que j'étais au Rwanda, tu vois. Mmh. Et au Rwanda, c'était vraiment la France qu'on écoutait et les États-Unis. Et en Belgique, après, quand j'avais 15 ans, non, les exemples noirs, elle n'avait pas.
Hein. J'ai une petite question sur le Rwanda. J'ai l'impression que c'est un pays qui s'est un peu défrancophonisé ces dernières années.
Complètement, après le problème avec Sarkozy.
Exactement, mais peut-être même avant, non? C'est adhésion au Commonwealth, c'est de plus en plus de l'emploi.
Mais ça a changé du jour au lendemain, par contre. Hein.
Ouais,
nous, on était francophones. Le jour au lendemain, le président, il a dit on n'est plus francophone, on est anglophone. Le jour d'après,
comment tu l'as vécu, toi?
Toutes les affiches ont changé dans la ville, tout était en anglais. Ouais, c'était intéressant. Ben, moi, j'ai vécu ça super bien, ça fait que je suis bilingue.
Ouais.
Donc, je suis contente, de ouf.
Ouais.
Mais c'était un peu chelou. Je pense que pour les adultes, c'était un peu chelou. Par exemple, ma mère, elle a dû apprendre l'anglais du jour au lendemain. C'était un peu compliqué pour elle. Mais maintenant, elle est bilingue aussi, donc tout va bien, quoi.
Est-ce que vous parlez un anglais un peu rwandaisisé, tu vois ce que je veux dire? Comme
ma
les
mère,
Nigérians
ont
leur propre anglais, tu sais.
Mais pas autant que les Nigérians, parce que les Nigérians, d'accord, c'est vraiment, ils ont cultivé, ça fait très longtemps, c'est comme
ça
les Jamaïcains, quoi,
ouais, ça fait,
tu vois. Alors que les Rwandais, pas du tout.
Plus
ils ont un accent, donc c'est drôle,
d'accord,
c'est drôle, tu vois.
Ouais, mais sinon,
et encore,
c'est un standard.
Ouais, standard de ouf.
T'es né donc au Congo RDC,
ouais,
et t'as grandi un peu au Rwanda, et après t'arrives en Belgique. T'as gardé des liens forts, du coup, avec le Rwanda et le Congo, ou pas du tout?
Ah oui, de ouf. Ouais, pendant.
Tu retournes de temps en temps?
Ouais, normalement tous les 6 mois. Voilà, je retourne encore cet été. Mes parents font des habits là-bas, donc on est obligé un peu,
d'accord,
de retourner pour voir nos parents. Et ouais, j'ai un lien puissant avec mes pays d'origine. J'en parle tous les jours. Je suis très très contente, très très fière d'être. Je suis très fière d'être noire. C'est très étrange, hein, mais je suis très fière d'être noire. Pas parce que je suis noire, noire ma couleur, tu vois. Ça, je m'en bats un peu les couilles, je dois avouer, tu vois. C'est juste que il y a tellement de combats en fait en cours que t'es obligé de revendiquer toute la journée que t'es noire alors que ce n'est que ma mélanine, you know what I'm saying?
Oui, tu parles du noir en tant qu'identité culturelle,
exactement.
Politique.
Et ça, je suis fière parce que c'est trop chouette en fait. Il y a plein de trucs. Hier justement dans une interview, je parlais à l'intervieweuse et elle me disait putain, vous avez trop de chance, vous avez tous vos habits culturels encore, vous avez votre langue, vous avez votre danse, tu sais de quelle tribu tu viens. Elle me disait, putain, nous ici, on sait pas du tout. Elle me dit, genre, à part l'Alsace et la Bretagne, right? Où t'as un truc très fort en France, où t'as un truc très identitaire, très fort.
À part les régions, ouais.
Ouais, voilà, tu vois.
Les
elle dit que c'est hyper dur, du coup, c'est hyper dur pour elle. Elle dit, genre, d'avoir une identité vraiment, tu vois, où il y a, comme au bled, quoi, tu vois. Je veux dire, au bled, par exemple, moi, je sais reconnaître plein de tribus, tu vois. je sais même reconnaître les gens par rapport à leur visage. Je regarde le visage, je me dis, ah, toi, t'es ça, toi, t'es ça.
Il y a des morphologies un petit peu.
Ouais, tu vois. Et elle me disait, ouais, voilà, nous, c'est un peu chaud et tout. Elle dit, genre, il y a un truc qui s'est coupé, elle, tu vois, qui fait qu'elle elle arrive pas à capter c'est quoi les éléments de son identité aussi clairement que, par exemple, un noir se dit, par exemple, les tresses, ça va être ça. Nous, ça va être, même aujourd'hui, la culture populaire, tu vas mettre un durag, tu vas porter ton pantalon d'une certaine façon, tu vas mettre un certain type de outfit, représenter certains types de marques. Il y a, notre culture, elle est vraiment, vraiment riche et parce qu'on la montre beaucoup, tu vois.
Ouais, ouais.
Et elle dit qu'il y a une certaine différence. Et c'est vrai que c'est important que je pense à ça.
J'avais un article super intéressant sur l'appropriation culturelle qui disait qu'en fait, il y a beaucoup de personnes blanches qui, consciemment ou pas, se rendre compte que la culture blanche est une forme d'acculture, tu vois, d'acculturation.
Mais je pense que ça cause des trucs comme, par exemple, la Révolution française, tu vois, le fait d'avoir imposé la laïcité, par exemple.
Ouais, ouais.
Ça fait, déjà, c'est un concept assez étrange, parce que laïcité, ça veut bien dire t'as le droit de croire en ce que tu veux, right?
Oui, c'est ça.
Et que l'État n'intervient pas, ne sponsorise pas.
Mais après, tu vois, t'as le droit de faire ce que tu veux, mais pas vraiment, tu vois, parce que tu peux pas arriver par exemple à l'école avec ton voile, tu peux pas mettre ta croix et t'es en mode.
Oui, oui, la laïcité en pratique n'est pas la même qu'en théorie.
Ouais, tu vois, juste ça, ça fait que t'as une espèce de brainwash commun à partir du moment où plus personne n'a le droit de montrer sa religion. La religion, c'est une identité vraiment puissante. Hein. C'est parce que dans ta façon d'être, par exemple, si tu prends un musulman qui est arabe, tu vois, il aura une façon, genre sa culture va être hyper intense, tu vois, la façon dont il va se coiffer ses cheveux, dont sa barbe va être faite, dont c'est son outfit, tu vois, sa djellaba, son truc, ça va être vraiment puissant, tu vois. Et à partir du moment où tu neutralises cette personne au niveau de sa religion, il va devenir quelqu'un de totalement différent de quand il était religieux, tu vois. Dans le concept, tu peux faire ce que tu veux, mais après, dans l'application, le problème, c'est que tu peux pas vraiment faire ce que tu veux. Moi, je pense le débat, le nombre incalculable, franchement, vu de la Belgique,
bien sûr.
Sidérant le nombre de débats que vous avez à la télé sur le port du voile, sans une seule femme voilée pendant le débat. On est là. Ouais. Pourquoi ils en ont autant? Quelque chose à foutre. Ouais,
c'est un débat moins hystérique en Belgique.
Ah mais pas, mais c'est même c'est pas hystérique du tout.
C'est même pas un débat.
En fait, il y a tellement de femmes arabes qu'on et on les aime, tu vois. Nous, on n'a aucune haine. Si tu veux mettre ta burqa, tu mets ta burqa. Tu veux qu'on voit que tes yeux et que c'est ton choix. Parce qu'ils aiment bien dire que c'est les hommes qui les imposent et tout ça. Mais how would you know? Did you ask all of them?
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a un truc un peu chelou, tu vois.
Moi, ce que je dis aux étrangers sur ces questions-là, sur la question du voile en particulier, c'est que dans notre débat politique, c'est l'équivalent, c'est à mi-chemin pour les Américains entre le port d'armes et l'avortement.
Ouais.
En termes de toxicité, on perd toute
alors que c'est pas... alors c'est un bout de tissu, quoi. Et que je pense que si tu veux vraiment être... si ton souci, c'est vraiment de te dire, j'espère que personne lui a imposé de porter ce voile... Tu vois, parce qu'ils aiment bien dire, on l'impose. Si c'est vraiment ça ton souci, parce que c'est normalement, ça peut être que ça ton souci. C'est que quelqu'un a imposé la pauvre femme. Ouais. Eh ben, là, je suis désolé, il n'y a pas de généralité sur Terre. Tu vas devoir faire du cas par cas.
Du cas par cas.
Tu vas aller voir dans chaque commune, une par une, et t'as pas le choix. Tu ouvres une cellule, si vraiment le gouvernement français était vraiment concerné par ça, tu ouvres une cellule de département, vous appelez pas ça des communes ici, vous appelez ça des mairies, département, enfin, non, c'est pas département, arrondissement.
Ouais.
Chaque arrondissement, tu ouvres une cellule. Et tu fais de l'enquête, en fait. Et tu fais des vraies statistiques. Il n'y a même pas eu d'enquête. Les gens, ils parlent toute la journée sans without even knowing. Et il n'y a rien de plus chelou. C'est comme si, du jour au lendemain, on venait chez les Noirs, on disait, mec, je suis sûr qu'on vous a obligé à vous couper les cheveux. Attendez, on va ouvrir des débats.
Ton dégradé n'est pas volontaire.
C'est pas ton père qui t'a obligé. Et là, what? Et c'est aussi ridicule que ça, Antoine.
Il y a une citation de toi dans une interview pour Manifesto 21 que j'aime beaucoup.
Yes.
Non, c'est pas pour... Si, c'est pour Manifesto.
Possible.
Je vais te la dire et tu vas me confirmer. Tu dis que ton album, tu peux flopper avec ton album. C'est quelque chose auquel tu survivrais. Par contre, tu peux pas flopper en tant que femme noire.
Ouais, non.
Est-ce que tu ressens une forme de pression, du coup, par rapport
Bien sûr, comme tu disais, de la communauté, en fait.
Ouais.
C'est qu'en fait, il n'y a tellement pas de représentation. Je pense la raison pour laquelle mes clips sont autant forcés. Je veux dire, j'aurais pu entrer dans le game une fois après avoir signé, quand t'as vraiment des moyens et tout, tu peux entrer low-key, tu vois. Tu peux arriver, et comme tous les rappeurs, tu fais ton petit clip, tu fais des freestyles, la bonne vieille méthode, freestyle, et puis quand ça prend, bah, tu fais ton clip, et puis après, tu vois, top great, etc., etc., tu vois. Mais j'ai pas le choix, en fait. On a aucune, mais en Belgique c'est très grave et en Europe c'est très très grave. On a une représentation de femmes noires, Aya Nakamura, qui fait un style de musique avec un style de visuel et une façon de prendre
Et est-ce que ce que je trouve cool, c'est qu'en plus toi tu forcément on va te comparer à elle parce que
toute la voilà. Journée.
Mais ce que je trouve cool, c'est que du coup elle, Aya Nakamura, elle fait ce que je vais appeler de la musique noire, même si bon la musique noire est en train de devenir une nouvelle pop. Tu vois ce que je veux dire? Et ce que j'aime beaucoup, c'est que toi en fait tu challenges les barrières musicales parce que tu es comme ta pote Ize, t'es une femme noire qui en plus le revendique,
ouais.
Mais qui revendique aussi le fait de faire de la pop en fait, enfin une musique qui se rapproche plus de la variété. Tu traînes avec Pomme, tu écoutes du Kate Bush,
ouais.
et même si t'as des éléments de trap et de R&B dans ta musique, tu fais pas de la musique on va dire aussi marquée urbaine qu'Aya Nakamura quoi.
Non, pas du tout. Après, ce qui est assez étrange, c'est vraiment français cette façon de voir. Tu vois, par exemple, moi, mon projet, on l'a développé un peu partout. Aux États-Unis, il n'y a pas un autre terme que le hip-hop pour définir ma musique. Hein. C'est du hip-hop.
Mais c'est parce qu'aux States, la musique noire est le paradigme dominant, tu vois.
Ouais, et que je veux dire, le hip-hop, ça se décline en énormément de styles musicaux. C'est-à-dire que ce qui définit le hip-hop en général, c'est le BPM, donc le tempo de la chanson, et le style de batterie que tu vas mettre. Parce que le hip-hop, ça a toujours été... Tu vois, tu peux prendre une chanson... Ça a commencé du sample. Tu peux prendre une chanson jazz, une chanson soul.
Ouais.
Et tu mets, c'est juste la rythmique qui va définir que c'est du hip-hop. Moi, ma musique, si tu prends Dilemme, c'est du hip-hop. Il n'y a pas moyen que ce soit autre chose que du hip-hop. À cause de la rythmique, le tempo, la cadence de mon flow. Tu vois. Ce qui va faire la confusion en France, c'est qu'il y a... La mélodie, elle est trop bien calée, entre guillemets. C'est-à-dire que la mélodie, elle ne va pas être parlée, assumée parlée pendant le couplet. Tu vois, elle va être très mélodique, en fait. Tu vois, il va y avoir beaucoup de mélodies. Et la mélodie du refrain, c'est ça qui fait qu'on dit que c'est de la pop.
Le dan, ta,
ouais,
da, da, da,
ouais, exactement, qui est très chanson française de ce na, 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 ouais. Tu vois. Et là où, aux États-Unis, ils vont juste se dire, vas-y, c'est du hip-hop, et on va la mettre aussi dans la catégorie hip-hop, en fait, parce que le refrain fonctionne bien, et on va pousser le truc comme ça. Ici, ben, une énorme confusion, tu vois, de se dire, attends, mais si elle a kické, le son, il ressemble à du hip-hop, mais en même temps, c'est ça. Et il y a toute cette problématique, en fait, où tu vois que les gens veulent vraiment définir le morceau, tu vois.
T'es Lose. Consciente. Vas-y, excuse-moi, Kevin.
Non, Lose, j'ai envie de te répondre, c'est de ta faute. Parce que quand t'arrives, tu dis, bonjour, c'est Caris et Dalida.
Ouais.
En même temps, dans la même personne. Donc du coup, bah oui, il y a de la confusion. Et c'est un compliment, tu vois, mais tu pourras arriver avec peut-être quelque chose de... Et en fait, ça vient à mon point suivant, c'est que sur la question noire, quand j'ai entendu parler à ce sujet-là, je me suis un peu reconnu, parce que tu parles beaucoup de ce sujet-là, mais en même temps, quand t'ouvres un peu ton univers, tu racontes que t'es une passionnée de culture japonaise.
Ouais.
Sauf que quand t'arrives dans un contexte où il y a une sous-représentation des femmes noires, etc., etc., tu parlais tout à l'heure de ton envie de mettre de la diversité en avant, mais que pour des raisons de tempo, de contexte, etc., tu dois mettre cette partie noire plus en avant que ça. Est-ce que tu as l'impression de devoir, du coup, renoncer à des choses qui, toi, peut-être, te plaisent autant que ce que tu dois faire et ne pas pouvoir en parler?
Ah, bien sûr, bien sûr. Et encore une fois, parce que être noir, t'as tellement pas de chance et t'as tellement pas de visibilité que j'aurais pu faire un clip, par exemple, où c'est mixte. Le problème, c'est que je vis dans un monde où 99% des clips qui vont sortir, il n'y a que des blancs. Il n'y a pas de noirs dans les clips, tu vois. Genre, si tu prends les clips qui sortent en France, des personnes mainstream, il n'y a que des blancs, tout
ou
le temps.
Ou des danseurs noirs vite
exactement,
fait au fond,
en fond derrière, ouais, exactement, ouais. Tu vois. Ou alors le noir, politiquement correct. Il faut mettre un noir et un asiat et c'est bon, ton clip
pas
est divers.
Un noir, un métis.
Ou un métis.
Pas déconner non
mais
plus.
Après, ils voient même pas la différence entre un métis et un noir, tu vois.
Oui,
genre,
oui.
Moi, par exemple, hier, j'étais avec, par exemple, ma styliste, et elle me dit, vas-y, essaye ce truc. Et je lui dis, mais dedans, il y a une doublure couleur chair.
Et
mais
la
pas
couleur
ma chair.
Ouais.
Et elle me dit, non, ma pote brésilienne, elle a essayé hier et tout, t'inquiète, ça se voit pas. Je dis, mais ta pote brésilienne, elle est pas noire.
Elle est littéralement couleur blonde, en fait.
Puis elle me dit, non, et tout, elle est noire, je te jure, elle est vraiment foncée. Et j'essaye le truc, je lui dis, regarde la différence. Parce que du coup, elle voit, elle fait, ah ouais, merde. Ah ouais, putain. Alors du coup, t'es plus foncé qu'elle. Et je vois, après le soir, la photo de la brésilienne en question, quand je vois sur son poste, je me dis, mais enfin, genre, à quel moment t'as cru que moi et elle, on avait la même complexion? Et c'est-à-dire, et je me dis, et ça arrive super souvent qu'on confonde un noir et un métis, et je me dis, mais ça a des années-lumière. Genre,
mais
pas moins de...
Après ça...
Mais genre, vraiment métis clair, tu vois.
La question de la race, c'est aussi la question d'où tu parles, dans quelle société tu
c'est
parles.
Vrai.
Ouais,
c'est vrai.
La race, c'est un concept fluctuant.
Si tu reviens à l'Europe, là, moi, je sais que quand je suis arrivé ici, il y a une quinzaine d'années, que je commence à parler des questions de colorisme, ou même, tu vois, de trucs de complexion, les gens, ils saignent du nez. Ils font, ouais, les gars, franchement, je vous conseille de pas vous prendre la tête avec ça. Pour nous, vous êtes un peu tous les mêmes.
Ouais, vous êtes un peu tous noirs, de toute façon.
Donc, voilà.
Alors que le débat il est vraiment différent, tu vois. À chaque fois que je dis d'ailleurs qu'il y a pas de vraiment de femmes noires dans l'industrie, c'est en mode bah il y avait quand même Beyoncé, Rihanna est en mode non pas du tout. Je veux dire, historiquement justement les Beyoncé, Rihanna au niveau de leur couleur de peau, elles ont toujours été les noires qu'on accepte, tu vois. Genre ça a toujours été ceux qu'on se dit bon ok eux ça va,
ça
tu
va.
Vois là où dans les années 90 où être une femme noire c'était avec le R&B et tout qui est arrivé, t'avais quand même une full représentation de la femme noire, tu vois. Il y avait vraiment de plein de petits groupes de meufs et tout, R&B et tout, et t'avais vraiment des femmes avec des complexions noires. Et celles qui avaient des peaux noires dans les années 90, aujourd'hui, je sais pas si t'as vu leur peau, elles sont pas du tout noires, hein. Elles sont plus noires, hein. Elles sont devenues métisses claires, presque blanches, tu vois. Même Beyoncé, entre le premier clip, si tu vois son clip...
Bills,
ouais. Sa peau là-dedans et sa peau aujourd'hui, il y a un monde d'écart, tu vois. Mmh. Et je pense que c'est parce que déjà, les produits de beauté sont éclaircissants, il y a plein de trucs. Même si tu veux pas auto-te éclaircir la peau, tu dois faire attention à plein de choses, surtout aux États-Unis où c'est un peu le choco word, tu vois, où t'as vraiment, je pense que t'as pas vraiment le choix. Mais moi, quand je vais dans des boutiques afro et tout à Bruxelles, t'as tout un rayon qui est vraiment, genre, obviously mis en place en mode... Ici, tu peux te claircir la peau.
Mais va à Château Rouge, à Paris, tu vas trouver ça.
Tu vas faire gaffe à tout ça dans tout ce qui est promo, shoot, etc. Tu sais, tu vas militer contre le airbrushing, tu sais, le Photoshop, tout ce qui est éclaircir la peau, machin.
Je fais hyper attention.
Les clips aussi, l'éclairage, tu fais gaffe à ça, tout ça.
Ouais. Mais après, j'ai de la chance parce que ma réalisatrice, Wendy Morgan, elle a vraiment compris mon propos et mon envie de représenter positivement des Noirs, en fait.
Et on te laisse faire. Ta maison de disques aussi te laisse faire. C'est dingue. Parce que...
Ils sont tous d'accord, c'est ça le pire. Je pense qu'au début, je pense que je suis la première artiste à autant revendiquer... ma noirceur.
C'est vrai qu'Aya Nakamura, ce que tu disais à Kevy avant qu'on enregistre l'émission, c'est qu'elle a plutôt tendance à botter en touche dès qu'on l'interpelle sur la blackness, tu vois.
Ouais, c'est vrai qu'elle parle pas beaucoup de ça. Et après, c'est parce que c'est tellement dur. Je peux pas l'en vouloir.
C'est relou.
C'est tellement dangereux.
Et
en plus, on demande. Tu vois, le noir qui doit parler de ça. On te demande d'être lettré, on te demande de t'articuler d'une certaine façon, on te demande beaucoup de choses si tu veux parler de la cause noire. Tu vois, je vais pas juste venir et dire, oui, je pense que les noirs. Et puis après. Tous tes moves vont être retenus contre toi. C'est comme ce qu'on te dit à la police quand t'arrêtes, là, tu vois. Tout ce que tu vas dire va réellement être retenu contre toi, tu vois. Quand t'es noir, c'est hardcore.
De vrai.
Donc moi, je peux comprendre pourquoi elle baille vite les questions quand, tu vois. Parce que moi, je l'ai jamais vu Aya Nakamura tenir un statement aussi. Après, il y a 6 ans, quand elle a commencé sa carrière, on va dire, il y a plus ou moins 6 ans, 5 ans, quand elle a commencé à percer et tout avec comportement, machin.
Love d'un voyou.
Exactement. C'était une époque où c'était encore très bresson pour une femme noire d'apparaître. Elle était la première.
Ça veut dire
que. Elle, c'est comme tu vois quand tu vois les pop stars aujourd'hui comme Billie Eilish, qui peuvent dire dans tous les interviews, je suis dépressif, je suis au bout de ma vie, j'ai envie de me suicider. Britney Spears, de l'époque où elle a été lancée, jamais de leur vie les pop stars pouvaient dire leur émotion.
C'est vrai. Elle a ouvert des portes.
Exactement. Ouais. Et pareil avec Aya Nakamura, je pense que quand en fait elle a commencé, on est quand même dans, c'est la première femme noire. Ça veut dire qu'on est déjà dans une culture de silence. Il n'y avait pas avant toi. Donc si t'arrives maintenant, tu vas faire le truc à tâtons parce que naturellement. Il n'y a personne qui a ouvert le discours. Là où aujourd'hui, juste 5 ans plus tard, aujourd'hui, moi je peux arriver, j'ai même pas sorti un son, je peux dire « Ouais, mais elle est noire ! Ouais, elle est noire ! Ouais !» Tu vois ? Là où il y a 5 ans, c'était pas possible. Parce que ça n'avait pas encore été fait, que ça demande énormément de courage et c'est très compliqué, tu vois.
Donc, comme je te disais tout à l'heure, moi je pense que ce que tu fais, c'est important parce que...
Merci beaucoup.
Il faut que des personnes comme... Tu me fais penser à Ize, tu me fais aussi penser à Lizzo aux États-Unis.
Ouais.
Parce qu'encore une fois, vous êtes des femmes noires qui se revendiquent comme telles et qui font de la musique qui... Alors évidemment, on est d'accord que c'est des catégories bancales, hein, mais qui font quand même de la musique qui est revendiquée comme blanche. La pop et la variété, pour faire très simple.
Ouais.
Donc t'es au courant qu'en France et dans d'autres pays il faut que les personnes noires rentrent dans ces espaces là, tu vois,
dans les
panthéons de la chanson française comme on dit, tu vois. T'es au courant quand même que en France et dans d'autres pays on va te foutre des bâtons dans les roues et on va te mettre des cases, par exemple. Peut-être qu'au victoire de la musique en France la prochaine fois, on voudra te mettre dans la catégorie musique urbaine.
Ouais.
Et comme on va après supprimer la catégorie musique urbaine, tu seras peut-être pas au victoire de la musique.
Ouais.
Alors je dis ça en déconnant, mais tu vois ce que je veux dire. Est-ce que t'as peur de ça?
Non, j'ai pas peur de ça. Moi, je pense que même aux États-Unis, la bataille est pas finie. Ça fait combien d'années que Drake se plaint de dire pourquoi vous continuez à me nominer pour l'album, le meilleur album urbain, alors que je fais de la pop. Lui, il a dit, comment tu peux être numéro 1 du Billboard? Genre, ta musique est populaire, gros. C'est-à-dire que pop, ça veut juste dire populaire. Ça veut pas dire blanc, ça veut pas dire noir. Ça veut juste dire ta musique est populaire. C'est la musique que les gens écoutent le plus. C'est ça que ça veut dire. Tu vois? Donc, à partir du moment où Hot Like Bling, comment ça veut dire que tu sors un album avec ce track et tu gagnes pas 10 Grammy, en fait? C'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a une espèce de conspiration underground de chelou, tu vois. Et ça fait des années qu'on la vit, tu vois. Et je pense qu'en France, on est vraiment à l'aube du débat. Je veux dire, là où là-bas, ça fait des années qu'ils font. T'as vu leur discours qui tiennent, genre quand tu vois Tyler the Creator, ce qu'il a dit, genre en mode arrêtez de dire qu'on fait de la musique urbaine comme si maintenant on est dans les villes. Et ils sont plus dehors, ils sont dedans, tu vois. Maintenant on doit les nommer par un style architectural parce que urbain, ça ne veut dire que ça. Tu vois, hyper chelou, tu vois. Je me dis où tout le monde a une espèce de. Je veux dire, les noirs, on a décidé qu'on faisait du hip-hop, ça s'appelle comme ça, et le blanc nous a dit. Ok, c'est de la musique urbaine. Et tu lui dis non, c'est du hip-hop. Il disait ok, pas de souci, musique urbaine. Et
si la FNAC demain elle met ton album dans la musique urbaine, tu fais quoi? Je réagis comment?
Je prends mon cash.
Et tu
et je change les choses.
Ouais, de l'intérieur.
Ouais, de l'intérieur, parce qu'en fait, t'as besoin de moyens et de collaborateurs. Et comme tu disais, j'ai de la beaucoup de chance d'avoir un label qui me soutient, de ouf, tu vois. Et je pense que, justement, j'ai une équipe qui défie beaucoup la chronique. Quand tu vois, tu te dis, ok, je suis quand même chez Columbia Records, en France. Quand tu vois les autres artistes, tu vois, on est quand même sur Julien Doré.
C'est pour ça que je suis étonné de la liberté que t'as.
Mais parce qu'ils ont pris le pari. Et je pense que ça a été... c'est un peu de la folie, tu vois. Moi, je me souviens qu'il y avait un petit air, une petite brise de folie dans le label, tu vois, de avec ma signature. C'était vraiment en mode, tu vois qu'il y a un pari vraiment puissant mis sur mon projet, tu vois.
Quand on traîne sur ton Instagram, c'est Afropunk tous les jours, tu vois. La vie, c'est Afropunk, tu vois. Donc, non, mais c'est vrai que c'est couillu de la part d'une maison, d'une grosse maison de disques.
Moi, je suis trop fier d'eux. Franchement, c'est pour ça que d'ailleurs, je porte le merch comme ça. Vraiment, c'est parce que il y a, en fait, il y a une compréhension du propos que je n'avais jamais vu dans l'industrie. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de labels, d'autres labels qui ne comprennent pas. Moi, j'ai déjà parlé à d'autres gens de d'autres labels qui me demandent tout le temps, même mes potes qui font du rap, qu'ils soient les Chrissy, tout ça et tout ça, ils me demandent toujours, c'est quoi l'ingrédient chelou que tu as utilisé pour, tu vois, tu les as drogués et tout. Je suis là, non, pas du tout. C'est juste que j'ai pris énormément de temps à parler de ma cause, en fait. Et elle est sensibilisée à ça, tu vois, de parler du fait d'être une femme noire toute la journée. At some point, les gens vont comprendre la vérité. C'est pour ça que je définis ma musique comme la vérité, c'est parce que je m'applique à être vraiment vrai tous les jours, tu vois. J'ai pas envie de mentir, j'ai pas envie de venir en étant désolé d'être, tu vois.
Kevin, est-ce que t'as une dernière question?
Ouais, moi j'avais une question sur Elgin Show.
Yes.
Qui, alors je vais pas dire que c'est l'homme derrière Rosalia, ce serait réducteur, mais donc c'est lui en fait qui produit ton album, si je ne me trompe pas, ton album à venir. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se fait, une rencontre comme ça avec... quelqu'un de cette ampleur?
Alors, j'ai vu... dis-toi que je suivais Rosalia du coup depuis qu'elle faisait du flamenco.
Ouais.
Et j'ai beaucoup aimé son album Los Angeles qu'elle avait sorti, son premier album en fait, qui était purement guitare-voix. Et puis, un jour, elle dit genre, voilà, j'ai du nouveau son qui va sortir et voilà le teaser, tu vois. Et j'écoute le teaser, c'était 30 secondes. Elle dit, voilà, le son va sortir vendredi.
C'était l'album Malquerer?
Ouais, El Malquerer. Ouais. Et le premier son, c'était Malamente. J'entends la prod de Malamente. Ouais. Et c'était pas encore sorti. Hein. J'ai pété une usine dans ma tête. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette prod? C'est du flamenco avec du hip-hop. Et t'entends parfaitement le flamenco et t'entends parfaitement le hip-hop. Je me suis dit, c'est de la drogue. Genre, who did this? Puis j'ai cherché. Et puis j'ai envoyé à mon éditeur et à mon label. J'ai dit, c'est avec lui que je vais travailler. Au début, j'ai un peu rigolé en mode, what are you talking about? Et puis j'ai fait non, c'est avec lui, je vais travailler avec lui. Il n'y a pas d'autre choix. On l'a contacté, genre la semaine après. Et quelques jours après, il nous a dit viens à Barcelone. Je suis venu à Barcelone. Et lui, il a été touché. On lui a envoyé que deux titres à moi, guitare-voix. Et il a été touché que par les lyrics. Et puis on a découvert que le mec parlait français, ce qui était choquant.
Je voulais dire, ouais, les lyrics.
Ouais, j'étais en mode, tu parles français? What? Et puis il était là, oui, mes parents m'ont puni quand j'avais 17 ans. Et ils m'ont envoyé à l'internat pendant un an en France.
C'est une vraie punition.
Okay. Vraie punition, j'étais en mode, ok. Et du coup, il a vécu un an à Paris quand il était jeune et il a appris français comme ça. Et du coup, il a été touché vraiment de ouf par les lyrics.
Ok, et du coup, qu'est-ce qu'on peut attendre de cet album? Qui, on sait pas quand il sort.
Ouais, coronavirus aura eu raison de ma carrière. Mais, mais on peut attendre, je pense, un album très éclectique.
Okay.
Dis-toi que si j'écoute de la K-pop, Kate Bush, Ikua Sasaki, voilà les génériques de manga.
J'ai hâte de voir le côté, voilà. Le côté japonais, là. Franchement,
je crois que le côté japonais, tu vas l'avoir surtout en live.
Ah, ok, d'accord.
Dans l'émotion.
Ok, tu lui enverras des places de concert?
Ouais. Vraiment, hein?
Et on verra We Love Green, parce que moi j'ai déjà mes places pour We Love Green.
Ah ouais,
et je prie tous les jours pour qu'il soit pas
annulé. Premier concert en
mais
plus.
Ouais, j'ai hâte.
J'ai une dernière petite question.
Yes.
On a parlé pendant toute l'émission de l'importance de la représentation des femmes noires et des personnes noires plus généralement dans la musique et dans l'espace mainstream. Toi, tu arrives avec cette identité et ce discours. Est-ce que tu as eu des retours intéressants des personnes noires de ton public qui écoutent ta musique? Est-ce que tu as des anecdotes marrantes à nous raconter là-dessus?
Ah, de ouf!
Des messages, des rencontres.
De ouf, ouais. Je pense que le plus trash, c'est... donc déjà, dans la communauté noire, je pense que tous les jours, je vois des messages de femmes, surtout, qui me disent « Merci d'exister, merci de faire ça et tout, lâche rien. » Elles me disent tout le temps « Je sais que c'est dur et tout, tu dois te mettre fraîche tous les jours quand tu sors et tout, mais continue et tout. » Et ça, je trouve ça trop mignon et tout. Et franchement, je me sens super supportée par ma communauté. Surtout les femmes noires, tu vois, qui là où d'habitude elles sont un peu craintives, tu vois, un peu chétives comme ça des autres femmes noires, tu vois, là elles s'en battent les couilles, elles ont sauté dans le plat, donc ça me fait plaisir.
Ouais.
et, euh, Et puis les Italiens. Moi, je trouve que les Italiens, je veux dire, c'est quand même un pays où le racisme fait fureur, tu vois. C'est un pays où les Noirs restent sur le bateau, tu vois.
Et pourtant, les Italiens,
ils aiment énormément ma musique et m'envoient beaucoup de messages tous les jours. Et c'est eux qui streament, je pense.
D'accord. C'est quoi le message qui t'a le plus touché? À un truc en particulier, un message
Moi, ce qui me touche, c'est toujours en rapport avec Eric. Je suis vraiment une petite guimauve. Et je pense que ce qui m'a touché le plus. Il y a des gens très intenses.
Quelqu'un s'est tatoué tes lyrics déjà ?
Non, je ne sais pas, j'espère pas. Il ne faut pas faire ça, tu vois. C'est le corps de Dieu. Non, moi, je ne peux pas faire ça. Mais ce qui m'a touché, c'est la traduction des paroles. Quand les gens, ils m'envoient, tu vois qu'ils ont écrit leur message sur Google Traduction. Tu vois, ça, je trouve ça trop mignon.
Trop mignon.
Tu vois, je me dis genre, oh, I love you. Okay. Voilà.
En tout cas, Luce, je vais faire la même chose que toute la communauté, du coup, c'est qu'on, je vais te mettre une grosse pression sur les épaules en mode maintenant que t'es là, t'as intérêt à représenter. Parce que
ouais, j'espère que je vais pouvoir bien le faire. J'espère que je vais jamais devenir chelou, tu vois.
On te regarde.
Merci.
Tapis dans l'ombre.
On te souhaite le succès que tu mérites. Merci. Moi, j'avais compris que la promo de ton album, c'était un peu sous l'égide de bousculer des mamans. C'est ce qui
je peux pas le dire.
Oui, tu peux.
C'est niquer le game.
Mais voilà.
Niquer le game.
Mais c'est tout ce qu'on te souhaite. C'est tout ce qu'on te souhaite. Tu restes avec nous 5 minutes, on fait les recommandations.
Yes. Alors, ma recommandation, c'est une série britannique de fantasy. Ça pourrait t'intéresser, Luce. Qui est tirée d'une série de livres pour ados.
Blocky.
Écrit par Mallory Blackman. C'est un nom qui s'invente pas, c'est une femme noire.
Mallory Blackman.
Tout à fait, Mallory Blackman. Donc, ça s'appelle Notes and Crosses.
Ah.
Le postulat de Notes and Crosses, c'est une question très simple. Et si c'était l'Afrique qui avait colonisé l'Europe ?
Let me remind you of a certain truth. There is strength in difference.
Things are never gonna change, are they?
You can keep a secret, can't you?
Crosses will be exposed for what they are.
The Nords are content to see our culture swept away. Every time I see you, there she is too.
Alors je vous explique un peu le postulat. On est à Londres au 21e siècle, donc depuis 700 ans, il y a l'Europe qui est sous la coupe d'un empire colonial qui s'appelle Africa. Bon bah en gros c'est l'Afrique, hein, c'est simple. Enfin dans la série, en gros l'Afrique, pour faire simple, c'est une sorte de Nigeria fictif, hein, parce que clairement les fringues, les dégaines, etc. Ouais. C'est le Nigeria. Voilà. L'Angleterre du coup s'appelle Albion, comme son nom,
la perfide,
à l'ancienne, Albion la perfide. Ouais. Et donc ils vivent sous un régime ségrégationniste, c'est-à-dire que les blancs qui s'appellent les Notes, donc Notes en anglais, ça veut dire néant. Donc les blancs sont appelés les Notes, et donc c'est une communauté marginalisée, victime de racisme et de violence policière.
Putain, c'est ouf, c'est
évidemment exclue des lieux de pouvoir et des lieux économiques. Et les noirs s'appellent les Cross, donc les Crosses. C'est la majorité dominante qui est privilégiée politiquement et économiquement. Et donc en fait, la série, c'est une sorte de drama racial et politique, et puis dystopique, où donc c'est une histoire d'amour interdite entre deux amis d'enfance. Donc un blanc du ghetto, dont un des amis est victime de violence policière dans le premier épisode, et une jeune femme noire riche et privilégié qui fait des études à la fac, etc.
C'est sur HBO ?
C'est sur Netflix ? C'est produit par la BBC.
BBC.
Tu peux le trouver sur les sites de streaming. Et dont le père, donc, à la jeune femme, est ministre de l'Intérieur d'un gouvernement de droite. Donc, tout répression, tout sécuritaire, c'est un peu le... Imaginez le daron, c'est un peu Brice Hortefeux de la série version africaine. Et donc, c'est une Angleterre, du coup, où tout est inversé. C'est-à-dire que les codes de l'élégance sont africains. À la télévision, dans les affiches, dans les pubs, on ne voit que des personnes noires. Et les pansements pour les peaux blanches n'existent pas. Et donc les femmes de chambre se prennent des petites, les femmes de chambre sont blanches et elles se prennent des petites réflexions en mode ah dites donc vous êtes un peu clair de peau, vous voyez, des petites réflexions entre guillemets racistes.
Ouais, c'est pas raciste, hein.
Exactement. Et donc voilà, la série et tout l'univers de la série est basé sur cette espèce d'inversion des valeurs qui est super intéressante. Alors c'est pas non plus d'une subtilité absolument incroyable. Faut pas oublier que c'est tiré d'une série fantasy pour ados, etc. C'est de la young adult literature.
Okay.
Donc voilà. Mais ça reste quand même super intéressant dans l'esthétique. Évidemment, c'est très bien produit. Quand la BBC se met à la production, on sait que c'est assez quali. Les acteurs sont très bons. La BO aussi est très soignée. Et donc voilà, rien que pour l'univers. J'espère. Rien pour l'univers, franchement, ça suffit un peu à piquer la curiosité. Donc voilà, c'est pas une série qui est disponible en France, mais vous la trouvez sur les sites de streaming, en sous-titré anglais, voilà, si vous avez du mal un peu avec l'accent britannique. Notes and Crosses, je vous recommande vraiment ça fort, fort, fort.
moi, ma recommandation cette semaine. Alors, première chose, c'est que souvent on me dit que mes recommandations sont un peu reloues. Tu vois, des documentaires, oui, c'est un truc sur le sacrement d'Haïlé Sélassié, empereur d'Éthiopie, c'est chiant. Donc du coup, bah, je vais vous recommander de la télé-réalité. Sauf que depuis quelques semaines, dans ma timeline et mes amis et partout, j'entends parler de Love is Blind.
J'ai cru que t'allais recommander The Circle, franchement, je suis déçu.
Télé-réalité de Netflix, mais en fait, j'ai pas vu Love is Blind. C'est pas ce que je regarde en ce moment. En ce moment, je regarde un truc beaucoup plus honteux qui s'appelle Love Island, qui est la première télé-réalité de Prime Video d'Amazon. C'est l'adaptation d'une télé-réalité anglo-saxonne avec des célibataires qui se regardent, se séduisent, se rejettent, etc. Et en fait, pourquoi je vous en parle, c'est parce que justement, il y a le début d'un couple de black love. Souvent, dans les trucs français, on essaye d'envoyer les meufs racisées vers les mecs blancs et inversement.
Et les meufs noires sont absolument absentes. J'ai jamais vu une meuf noire en télé-réalité française.
Eh ben, figure-toi que là, il y a une candidate qui s'appelle Raynande, qu'on découvre donc parmi les 5 premières femmes, et chacune elle doit choisir un mec, et à chaque fois qu'on leur présente un mec, Raynande elle veut 2 personnes, donc les 5 premiers mecs elle en veut pas, tu vois, donc on finit par la matcher avec un type, et genre 24 ou 48 heures après t'as un beau gosse noir d'origine dit Togo et Bénin qui arrive, et là Raynande elle fond, elle en peut plus, donc évidemment on les rapproche, même si Marvin, donc le jeune homme noir qui rentre, à des petits trucs de fuckboy parce qu'il dit à Raynande, je t'aime bien, mais s'il y a moyen avec Angèle, la blonde au gros sein, je prends, tu vois. Et donc du coup, on suit tout ça et on voit les petites techniques de Raynande. Et en plus, au fur et à mesure des épisodes, elle glow, elle devient de plus en plus belle, l'amour, etc. Donc, se présenter par Nabila, donc je vais pas vous survendre le côté
sociologique
et identitaire du truc. Mais sinon, si vous êtes pas content, vous pouvez toujours aller sur YouTube et voir le documentaire que j'avais recommandé il y a quelques mois sur le sacrement d'Haïlé Sélassié. Sinon, Love Island sur Prime Video. Voilà, c'est tout pour moi.
Conclusion,
c'était le chip. On revient, mais on revient quand, François ?
Alors là, en ce moment, on est en train un peu de redéfinir notre format, de revoir un peu comment on collabore avec Binge Audio. On est en train de travailler dans l'ombre sans relâche. Donc, on ne sait pas encore exactement quand est-ce qu'on revient. On va vous tenir au courant sur les réseaux sociaux. Mais en gros, Inch'Allah, plutôt 2 mois, quelque chose comme ça, 2 mois et demi, ça dépend de plein de choses, et notamment du coronavirus. Je vais tout les mettre sur le dos, ce bâtard.
Et puis en plus, ce qui est cool, c'est que à la fin du mois, vous allez pour certains recevoir les jeux.
Le jeu, donc
on sera un petit peu avec vous. En attendant qu'on revienne, vous pouvez nous retrouver, nous suivre sur Twitter, Instagram, @lechippodcast.
Bien sûr.
Louz, où est-ce qu'on te retrouve sur Internet?
On me retrouve le 20 mars sur YouTube avec mon nouveau single. Sur YouTube et toutes les plateformes avec Solo.
Solo, yes. On a pu voir en extrait, ça a l'air mortel. Youhou. Toujours la même réalisatrice,
yes,
la baguette.
Wendy Morgan.
Wendy Morgan qui déchire. Concernant le chip, vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, SoundCloud, toutes vos applis de podcasts habituels. Laissez-nous une review sur Apple Podcasts et mettez-nous
5 étoiles.
5 étoiles de préférence pour nous faire remonter dans le classement. On remercie Sony Music et Alexis pour les moyens techniques. Cette émission a été produite par Binge Audio. Merci encore à Louz.
Merci à vous.
Sors ta cache.
Yeah.
Et puis des gros bisous et à très vite.
Bisous.
Bye bye.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.